noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Pour une vision plus large des choses. Ni noir ni blanc. D'un extrême à l'autre, il y a tout un monde. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Bon mercredi à tous. Bonjour, Guillaume.
Hey, content d'être là.
T'as eu un petit problème de moto, je pense, ce matin, hein?
Ben oui, j'ai fallu que je m'occupe un petit peu de ma chaîne.
Ma chaîne de moto?
Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est correct, c'est correct.
Ben oui, on est arrivé à bon port. On a eu peur que tu te présentes pas à un certain moment, mais non, toujours là.
Toujours là. Je suis rentré par une fenêtre. C'était absolument héroïque, mon entrée. Non, vraiment
c'est
pas.
Incroyable. Vraiment on pas. Est là avec vous encore une fois jusqu'à midi aujourd'hui avec une foule de sujets pour vous. Courrier du cœur, les couples qui font chambre à part. Oh, ça va être intéressant. Ça aussi, c'est une demande en passant. On vous écoute, hein, vous savez.
Il y en a qui prouvent vraiment un malaise hein, à aborder ça avec
leur conjoint. C'est très
polarisant,
ce sujet-là.
Oui, puis on sent mal des fois de considérer ça dans notre couple parce qu'on se dit, ça y est, c'est la fin.
Ah oui, c'est le début de la fin, c'est tout ça que ça veut dire.
Ben oui,
les couples qui font chambre à part, c'est ce qu'on va parler dans le courrier du cœur à 11h30. À 11h, en deuxième partie de l'émission, l'intelligence.
Ah ça, j'aime ça, des trucs de psycho, hein, vous le savez.
Ah oui, puis c'était une demande spéciale de Guillaume aussi,
oui,
qui voulait en parler. On va parler d'intelligence.
Ouais.
Y a-t-il différents types d'intelligence?
Ou encore, ça existe.
C'est ça, ou il y en a juste un type d'intelligence.
Est-ce qu'on est sûr qu'on l'a, ce type-là?
Est-ce qu'on est intelligent? Est-ce qu'on se trouve intelligent?
Ouais,
c'est de ça qu'on va parler
ça.
À 11h. Mais d'abord, je vous partage un petit article qui a été publié dans le magazine français Slate, qui fait état d'une étude qui dit que les jeunes Américains ont de plus en plus besoin de leurs parents pour acheter une maison. Bon, on sait que le prix des maisons a un petit peu explosé là, cette année, mais en fait, depuis le début de la pandémie. Mais les statistiques qui sont dans l'article sont quand même intéressantes parce que ça date de 2018. Ce que l'article dit, c'est que dans une étude d'une firme de financement américaine, en 2018, 43 % des adultes de moins de 35 ans ont recours à l'aide de leur famille pour acheter une propriété. En 2018, c'était avant l'explosion du prix des propriétés de cette année. Fait qu'on peut présumer que ce pourcentage-là est encore plus élevé aujourd'hui. Imaginez si c'est un jeune de 35 ans et moins sur deux qui ont besoin d'aide des parents.
C'est 35 ans et moins?
Oui, voilà.
Donc,
c'est vraiment
ça,
les
c'est
jeunes.
Pas 20 ans et moins. Là. C'est
non.
35 ans et moins. Ça va loin. Là.
Ben exactement.
On a besoin de nos parents longtemps. Là.
C'est ça. Il y a des gens qui sont rendus à leur deuxième, troisième propriété, des fois à 35 ans. Là. C'est pas nécessairement tous des premiers acheteurs. Alors, c'est vraiment intéressant de lire ça. Et ça nous a amené à parler un petit peu de notre dépendance à nos parents. On a l'impression que c'est de plus en plus présent, cette espèce de besoin-là d'avoir recours à l'aide de nos parents, que ce soit pour plusieurs aspects de nos vies, mais surtout financiers. Acheter une maison, payer les études, payer un appartement, que ce soit là dans n'importe quel aspect de nos vies. Notre question est à deux volets ce matin. On va s'adresser d'abord aux jeunes qui nous écoutent. La question pour vous, comptez-vous trop sur papa-maman pour avancer dans la vie? Et pour les parents qui nous écoutent, est-ce que vous permettez trop à vos enfants de compter sur vous? Le numéro de téléphone pour nous joindre, 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Guillaume, le spectre de possibilités pour agir sur cette question-là quand on est parent est infini. Parce que tu as ceux qui vont dire « je supporte à 1200%, je paye tout jusqu'à ce que je considère que je sois assez autonome. Et si c'est à 30 ans, bien, ce sera ça. » Et tu as les autres parents qui disent « à partir de 18 ans, je ne subviens plus à aucun de tes besoins. Si tu restes à la maison, tu vas payer une pension, par exemple. Tu vas payer tes études à 100 %. Tu vas payer tes appartements. Tu vas payer toi-même ta première maison. » Alors, entre les deux, il y a toutes sortes de possibilités et j'imagine que les parents sont un petit peu perdus là-dedans.
Bien, c'est parce que, oui, parce que ça varie beaucoup d'une culture à l'autre. C'est très, très culturel la façon dont les parents aident ou soutiennent leurs enfants. Il y a des communautés où c'est hors de question que les enfants s'en aillent en dehors de la maison avant qu'ils soient mariés, par exemple. Il y en a qui veulent tout payer pour les enfants pour très, très longtemps. Ce sont des règles culturelles. Puis après ça, ben il y a d'autres cultures où c'est plus aléatoire. Au Québec, c'est un petit peu plus aléatoire. Les jeunes sont un petit peu plus poussés en dehors du foyer familial rapidement. On a moins une culture familiale au Québec. On n'a pas une culture de patrimoine ou de transfert de patrimoine, contrairement à d'autres groupes où la communauté est très importante, le patrimoine, c'est très important, et ce que tu vas léguer à la prochaine génération est très important, et même dans deux générations. Donc, il y a des groupes où ça pense déjà à deux générations. Donc, il y a vraiment la culture d'un transfert de ressources, mais aussi beaucoup de cultures qui ont des règles très précises sur qu'est-ce qu'ils vont transférer, pourquoi, comment, de telle façon. Donc, y a beaucoup de types d'encadrement. Puis encore là, ça dépend aussi, c'est quoi l'attente qu'on a des enfants? Est-ce qu'on veut simplement leur faciliter la vie ou est-ce qu'on veut soutenir une initiative qui est déjà en route chez eux? C'est très différent, où on veut comme combler leur insécurité. C'est deux mécanismes différents, c'est des processus familiaux et culturels différents.
Parce qu'on s'entend que l'objectif, j'imagine, quand on est parent, c'est de rendre notre enfant le plus autonome possible pour la vie qui s'en vient. Parce qu'un jour, il va quitter le foyer familial, puis il va falloir qu'il se débrouille seul. Alors, l'objectif qu'il faut toujours avoir en tête, c'est de rendre notre enfant indépendant. Mais en subvenant à ses besoins, puis en lui facilitant la vie dans tous les aspects, est-ce qu'on aide vraiment dans cet objectif-là?
Mais ça dépend comment c'est fait. Ouais. C'est comme un renforcement. C'est-tu bon récompenser quelqu'un? Ben, tu sais, la science va pas te dire « Ah oui, c'est bon ou c'est pas bon ». On va dire « Ça dépend quel est le renforcement, ça dépend qu'est-ce qui est renforcé, à quel moment, quelle est la valeur ou la puissance du renforcement versus le comportement qu'on veut renforcer ». Donc, moi, je pense que l'idée d'avoir des enfants puis de construire un patrimoine familial, c'est oui, on veut aider l'autonomie, mais aussi, si toi, tu as construit quelque chose comme parent, tu veux transférer quelque chose à tes enfants aussi. Donc, on ne peut pas faire, en fait, justifier un espèce de bris là, entre les enfants et les parents sous prétexte qu'on veut les rendre autonomes. Il y a moyen de les rendre autonomes et aussi transférer des choses aux enfants.
Poser une question, par exemple. Ta première voiture, toi, qui l'a payée? Toi ou tes parents?
Mes parents.
OK. Fait qu'ils t'ont facilité la vie dans ce domaine-là. Ils t'ont payé ta première voiture.
Oui. Mais tu vois, j'adore ta question. Je m'en attendais pas. Oui, parce que ma Toyota... ma Toyota Tercel bleu pâle.
Oh!
N'est-ce pas? Qui coûtait plus cher en huile qu'en gaz.
Voiture très populaire à l'époque.
Oui, c'est ça.
Ça trahit ton âge, ça, en passant.
C'était en adéquation avec un projet. C'est-à-dire, je ne pouvais pas être un athlète si je ne pouvais pas me transporter, j'habitais trop loin.
Okay,
donc, pour faire vivre un projet, il y a une contribution. Ce n'est pas, je t'achète un auto parce que je t'achète un auto parce que là, tu as tel âge. C'est comme, non, c'est comme, ça va servir quoi dans ton développement? Donc, il y a toujours une adéquation sur quel est le projet, comment tu vas t'y investir et comment les parents peuvent soutenir cet effort-là. Fait que il y a des ratios là-dedans, il y a des plusieurs variables qui comptent, qui s'interinfluencent.
C'est pas évident quand même là, de penser à comment on va gérer ça quand on est parent. On doit s'arrêter pour la première pause de l'émission. C'est la question qu'on vous pose ce matin. Comptez-vous trop sur papa-maman pour avancer dans la vie? Si vous êtes un jeune, c'est la question qu'on vous pose. Et si vous êtes un parent, est-ce que vous permettez trop à vos enfants de compter sur vous? Est-ce que vous considérez que vous les aidez peut-être en dehors du cadre de les amener vers l'indépendance? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc. On se retrouve dans quelques minutes.
Plus large des choses. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
J'ai vraiment hâte d'aller entendre les auditeurs parce que j'ai l'impression que les réponses vont être très différentes d'une personne à l'autre. On le voit déjà juste dans les textos.
Je ne sais pas s'il y en a qui vont admettre autant comme enfant, dire « Ben oui, je me fais tellement vivre par mes parents,
oui,
je ne fais rien. »
Mais dites-le si c'est ça, sincèrement. Vous savez qu'on est sans jugement, puis on veut savoir, on ne veut pas juste des parfaits là, qui ont l'impression que leur méthode est la meilleure. Ouais. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui en fait trop ou vous comptez trop sur vos parents, ben dites-le aussi, on veut vous entendre. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour, ça va bien?
Très
va
bien.
Écoute, moi, j'ai un garçon, mon dernier, il a 19 ans. J'ai une fille de 23. J'ai un grand garçon de 31 ans. On peut plus faire comme avant, là, à 18 ans, dire, tu prends un appartement, puis ci, puis ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut les aider. Il faut pas leur faire gaspiller l'argent qu'ils gagnent. Il faut la faire investir jeune. Mon plus jeune, il a 19 ans, là, il vient s'acheter un terrain, tu sais, pour se bâtir. Il a passé à la banque. Okay. S'il y avait un problème, j'aurais signé. Il travaille avec moi. Hein. Il n'a jamais payé de voiture. Tu sais, j'y aide. Ma fille, sa première voiture, on a divisé ça à trois. On a donné chacun 2005. Tu sais, mon plus vieux, c'était pareil. J'ai payé la moitié de la voiture avec sa mère. Je pense qu'on peut plus arriver. Puis il faut les aider. Il faut les mettre dans le bon chemin. Parce que c'est arrivé, là, puis les larguer comme ça, là, puis les sacrer dans un appartement puis s'en débarrasser, là. Moi, je pense que c'est pas le bon truc.
Okay.
Je pense qu'il faut les aider, faut les motiver. Tu sais, mon plus jeune a 19 ans, là, puis il m'a donné, il y a un peu de ça à la banque, puis là, il y avait du gaspillage. Là. J'ai dit, gars, c'est assez, là. Tu vas acheter un terrain, tu vas faire un paiement tous les mois, là, puis plus tard, tu verras ce que tu fais avec.
OK. OK.
On peut, tu sais, vous parliez des Américains, des maisons, ça. Tout coûte très cher, là, hein.
Mais Stéphane, dites-moi, est-ce que vos enfants prennent pour acquis un petit peu l'aide que vous leur donnez?
Écoute, là, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Là. Mon plus vieux, il a 31. Là, il a acheté un chalet il y a 2-3 ans. Il a eu besoin d'un camion. J'ai été mener des meubles. Il me demandait une scie l'autre jour. Je ne voulais pas qu'il allait acheter une scie. Il est venu chercher ma scie radiale.
Comment tu fais pour doser? Est-ce que des choses qui auraient fait en sorte que tu aurais dit, OK, non, ça, je peux pas aller de l'avant avec ça, je peux pas le soutenir là-dedans, ça sera pas bon, ou tu dis oui à tout? Est-ce qu'il y a des éléments discriminatifs dans ton aide?
Moi, je pense que nos enfants, qu'on doit être open. On doit pas les laisser aller. On doit les aider. Dans n'importe quel sens. Tu sais, là, moi, je roule avec des véhicules qui coûtent cher, là. Puis mon plus jeune, il a 19 ans, là, puis il se prend avec des véhicules de 50 mètres piastres.
Mais donc, Stéphane, vous dites oui à tout, c'est ça la réponse à la question?
Ben, écoute, moi, j'ai pas mon dire. Tant qu'ils font pas de niaiserie, puis qu'ils m'arrivent pas avec une histoire de drogue, puis ces cochonneries-là, là, je suis open. La minute qu'il va arriver des niaiseries, là, whoop, là, je vais serrer sur le corps de pied.
Stéphane, merci beaucoup d'avoir appelé. On a ici
alors,
l'exemple.
Voici un style.
Oui, c'est ça.
C'est un style que mon fils va rouler dans un char à 50 000 parce que c'est ça qu'on veut. Et puis, tu vas t'acheter un terrain. Bon, c'est une philosophie.
Oui, c'est une philosophie. Ouais. Puis, je pense qu'il y a probablement des parents qui ne sont pas d'accord présentement, là, puis qui entendent ça, puis qui disent, crime, il faut que l'enfant de 19 ans fasse des erreurs aussi. C'est sûr que 19 ans, quand tes parents arrivent, puis tu dis, là, je vois que tu dépenses ton argent n'importe comment, je vais te faire acheter un terrain. Des fois, il faut en perdre de l'argent pour comprendre c'est quoi la valeur de l'argent. Hein? Moi, je peux vous dire que quand j'avais 19 ans, je n'avais pas une scène là, parce que ça rentrait puis ça sortait puis je dépensais. Ouais. Évidemment, aujourd'hui, je serais peut-être en meilleure position si j'avais bien fait ça. Mais le fait de faire des erreurs, ça nous apprend aussi ça vaut quoi un dollar, là? Ça vaut quoi l'argent. Alors, c'est un style, c'est une méthode. Il y en a qui vont être d'accord, d'autres que non. Allons voir ce que Maggie en pense. Bonjour, Maggie.
Oui, bonjour. Comment ça va?
Très bien, très Maggie. Bien. On vous écoute.
Très bien. Alors moi, en fait, j'ai tenu à intervenir tout simplement parce que, en fait, je ne suis pas québécoise d'origine et bon, j'ai adopté le Québec pour ses valeurs, mais le débat, en fait, me surprend un petit peu parce que de là où je viens, il est tout à fait normal de rester chez ses parents. Mmh. C'est-à-dire que les parents ont la responsabilité d'épauler leurs enfants jusqu'à ce qu'ils puissent être vraiment capables d'entrer dans la vraie vie, c'est-à-dire en finissant leurs études et même après avoir fini leurs études, donc après trouver un travail et avec un salaire qui va leur permettre effectivement donc de voler de leurs propres ailes. Donc moi personnellement, donc j'ai quitté en fait le foyer familial à 36 ans.
Mmh. Okay.
C'est sûr que je travaillais, j'ai commencé à gagner ma vie, donc je contribuais, mais j'ai quitté en fait le foyer familial en fait une fois que j'ai dû travailler dans une autre ville. C'est pas pour autant que je suis dépendante de ma mère en fait, parce que mon père est décédé depuis longtemps. Au contraire, je suis une femme qui a voyagé. D'ailleurs, j'ai émigré ici toute seule. J'ai fait ma vie ici et tout ça.
Vous venez d'où, Maggie? Hein? Vous venez de quel pays? Vous venez de quel endroit?
Je suis marocaine d'origine.
Ah, OK, parfait. Excellent.
Je suis marocaine. Puis j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. Et je ne vous cache pas que parfois, par exemple, même à la garderie, j'ai eu des discussions avec les éducatrices qui me disaient qu'à 2 ans, il devait être capable de mettre ses chaussures. Je trouvais ça très, très dur. Et moi, personnellement, je me sens investie d'un devoir d'épauler mon fils, mm-hmm. justement, jusqu'à la fin. Parce que chez nous, il y a quand même des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que l'argent. Par exemple, l'éducation. Qu'il aille à l'université. C'est pas pour autant que je vais l'empêcher de vivre sa vie ou d'avoir des expériences. Mais je me sens investie de la responsabilité d'être son recours et son support et son refuge, parce que le jour où il va être en mesure effectivement donc de voler de ses propres ailes, moi de toute façon je suis pas éternelle, je vais partir un jour et ça me réconforterait de savoir que je lui ai donné vraiment le maximum qu'il faut pour qu'il puisse le faire dans les meilleures conditions possibles.
Et Maggie, dites-moi, vous dites que vous venez d'un pays où effectivement c'est tout à fait normal de rester longtemps chez ses parents. Ici au Québec, c'est un petit peu moins la norme. On a même un mot pour ça, ça s'appelle des taggies. Vous, est-ce que vous seriez prête à ce que votre fils quitte le foyer à 36 ans, par exemple?
Ben, écoutez, c'est-à-dire que oui, à 36 ans, pourquoi pas, s'il fait ses études, par exemple, s'il s'investit dans des études de doctorat, s'il lance un projet puis qui n'est pas encore tout à fait sur, c'est-à-dire capable d'être indépendant, ben oui, certainement que je serai effectivement donc là pour lui tout le temps, même à 50 ans. Hein.
Maggie, merci beaucoup appelé. C'est très culturel, hein, vous voyez.
C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon, mais je pense qu'il y a définitivement un défi là-dedans. C'est quelle est la ligne entre le soutien et la bonne parentalité et l'autonomie? Parce que c'est aussi ça l'idée. L'idée, c'est de créer une personne qui est capable de prendre des décisions, de mener la vie qu'elle veut avoir. Comment tu fais la part des choses? Et c'est pas écrit dans le ciel, puis c'est pas miraculeux. Mais je pense que c'est une préoccupation qu'on a tous à quelque part. Là. Maggie faisait état de dire, là, elle trouve ça dur que les éducatrices encouragent l'enfant à attacher ses souliers tout seul. C'est comme, elle, c'est beaucoup, OK, pour elle. Ça fait partie du défi. Là. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut pousser? C'est-tu quelque chose qu'il faut encourager? Est-ce qu'il faut faire plus à la place?
Écoute, le texto qui vient d'entrer, l'entente que j'ai avec mes enfants était la suivante. Vous finissez vos études et lorsque vous aurez un emploi stable, je vous donne le 20% nécessaire à la mise de fonds pour vous acheter une propriété. Je vois ça comme une avance sur leur héritage. Avec le prix des propriétés aujourd'hui, c'est un méchant cadeau, 20%, je vais vous dire. Là.
Mais tu vois, c'est ça. Là, tu vois, il y a des parents qui ont des règles plus claires. D'autres cultures ont aussi des règles claires sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. La culture juive sont très forts là-dedans, sont extrêmement soutenants, mais il y a beaucoup de règles. Donc, c'est une espèce de collaboration entre les deux, que soit que c'est issu de la culture ou soit que c'est issu plus d'une culture dite plus familiale, mettons.
Michael est avec nous maintenant. Bonjour, Michael.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui.
Oui, bon, ben moi, dans le fond, c'est ça, c'est que dans bien des cas, on s'entend, là, les parents, ils veulent toujours donner le meilleur à leurs enfants, ils veulent vraiment s'assurer que les enfants vont pas souffrir, puis vont avoir du bon dans leur vie. Oui. Ben c'est ça, ça dépend aussi comment le parent, lui, a été élevé. Tu sais, il y a des parents qui ont manqué beaucoup de choses dans leur vie, donc ils veulent donner tout à leurs enfants.
Oui.
Fait que ça peut être bon, fait qu'ils veulent vraiment le bien de leurs enfants, mais des fois, vouloir trop le bien, ça peut amener un débalancement aussi. Mm-hmm. Moi, tu sais, des fois, même si c'est gênant, des fois, pour dire, ça me crée une honte qu'à l'âge de 40 ans, je me considère encore dépendant de mes parents.
OK.
Oui. Puis moi, dans mon cas, dans ma jeunesse, tout ça, puis encore aujourd'hui, moi, on entendait tantôt Philippe Laprise, le TDAH, mm-hmm. c'est quelque chose qui m'a affecté beaucoup. Fait que ça m'a causé beaucoup de difficultés quand j'étais jeune. Donc, le parent, ben, c'est sûr qu'il veut aider le plus son enfant, mais des fois, il l'aide tellement que ça empêche l'enfant d'évoluer puis de grandir, faire des erreurs puis tout ça, il veut tout faire à sa place.
Mais racontez-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait leurs parents, vos parents, vous, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pour vous aider, là, qui a créé tout
Mes parents, ils ont toujours été là à côté de moi, je veux dire, pour les études, vraiment, vraiment à côté, puis au niveau de l'argent, au niveau de faire des listes, de pas prendre l'autobus, venir nous porter, parce que eux, bon, justement, ils ont eu peut-être, ils ont manqué des choses quand ils étaient jeunes, mais ils veulent tout donner à leurs enfants. Mm-hmm. Fait que ça nous empêche de bâtir un caractère, de grandir, mm-hmm. de prendre de la force. Puis ça crée un cercle vicieux parce qu'après ça, l'enfant, lui, il s'habitue à ça puis il continue le cercle. Puis le parent, lui, quand il fournit pas l'aide à son enfant, il se sent coupable. Ouais. Fait que ça crée un cercle vicieux. Puis ça continue, ça se perpétue jusqu'à l'âge adulte. Puis encore aujourd'hui, c'est difficile d'en sortir de ça.
Ils vous aident comment, vos parents, aujourd'hui?
Pardon?
Ils vous aident comment, vos parents, aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous aident encore financièrement?
Financièrement encore, je veux dire, mais avec ça, ben le style de vie que je veux vivre, des fois, il peut être un peu au-dessus de mes moyens, mais le parent va quand même aider un peu aussi, puis c'est difficile pour moi de dire non, je veux pas ton aide, parce que on s'habitue à cette qualité de vie, à ce style de vie, puis c'est difficile de dire non, mais à un moment donné, l'orgueil ou la fierté en soi, de soi, prend le dessus, puis non, là c'est assez.
Michael, est-ce que vous avez un emploi?
Oui, j'ai un emploi.
Et est-ce que vous avez une maison ou un appartement?
J'habite en appartement et bon, en ce moment, je suis en train de briser tranquillement ce pattern-là, mais crime, je suis rendu à 40 ans. Là.
Non, c'est ça. Puis donc, c'est qui paye pour votre appartement? Est-ce que c'est vous ou c'est vos parents?
C'est les deux. Ça veut dire que je reçois un appui, mais je suis en train de tranquillement me débarrasser de cet appui-là. Mm-hmm. Pas parti pas, mais c'est en train de se faire. Là.
Mais donc, vous êtes très conscient de ça, Michael. Vous en êtes très conscient. Là. Je comprends qu'il y a vraiment un désir pour vous de vous émanciper. Là.
Ah, c'est sûr, parce que ça joue sur l'estime de soi, là.
Puis rencontrer quelqu'un, j'imagine aussi, ça doit jouer aussi là-dessus. C'est pas trop le fun de dire qu'on est encore dépendant de nos parents.
Là. Non, je veux dire, je suis marié. Fait que oui, ça joue sur le couple, mais je veux dire, à un moment donné, le couple, je veux dire, il rentre dans cette dynamique-là au complet, le couple au complet. Donc, c'est sûr. Fait que ça a des bons côtés, mais ça a des désavantages. Faut faire attention. Les parents doivent laisser leurs enfants vivre la souffrance, expérimenter les choses, puis il ne faut pas avoir peur de ça parce que trop vouloir donner aussi, ça peut causer un débalancement.
Michael, merci pour votre témoignage. Michael. Vraiment.
Oui.
C'est quelque chose hein, quand même, parce que la conscience du problème est très présente ici.
Oui, mais c'est ça. C'est une forme de dépendance. Là. OK? Puis il n'y a rien de pire que de voir ton enfant qui vieillit pas, qui n'est pas capable de passer à l'âge adulte, qui reste dans des schémas d'enfants, des schémas d'adolescents. Il n'y a rien de pire qu'un adulte pas responsable. Je ne parle pas directement de Michael. Je parle en général, ce n'est pas les enfants qu'on veut mettre, qu'on veut soutenir. On veut soutenir des adultes responsables. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils rentrent dans le mode adulte et le mode autonomie.
C'est quelque chose. Mais en même temps, comme Michael dit, j'ai peut-être des goûts et des désirs qui sont au-dessus de mes moyens. Fait que ça me permet de continuer un rythme de vie qui me plaît, un rythme de vie que je vais devoir abandonner si je m'émancipe totalement.
Bien, c'est ça. La notion de responsabilité, c'est que tu dois faire face à ce que tu veux et les conséquences de ce que tu veux. Et le fait de pas prendre des responsabilités, ça veut dire qu'il va y avoir un gap à combler et c'est là où la béquille des parents rentre. Et c'est pas valorisant pour un adulte du tout.
Comptez-vous trop sur papa-maman pour avancer dans la vie? Et les parents, est-ce que vous permettez trop à vos enfants de compter sur vous? C'est la question qu'on vous pose ce matin. On doit s'arrêter pour une pause. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Peu importe ce que vous en pensez, vous êtes les bienvenus dans la discussion. C'est sans jugement. On parle ensemble et c'est très intéressant. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc. On se retrouve dans quelques minutes.
On parle de tout avec vous. De retour à Ni Noir ni Blanc avec Élisabeth Crêpe et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
Des messages assez intéressants. Hein?
Vraiment. Et avant d'aller parler à Sabrina, je vais juste vous lire deux textos qui sont hyper pertinents. Quelqu'un nous écrit « Moi, j'ai été gâtée pourrie. Char fourni, carte de crédit payée par papa, maman qui faisait tout pour moi à la maison. Et ce fut une grosse débarque le jour où je suis partie en appartement à 25 ans. Je savais pas du tout gérer un budget ni avoir des responsabilités. À 45 ans, je commence à peine à m'en sortir et j'ai encore tendance à demander à papa-maman de m'aider dès que j'ai un pépin. Mes parents eux-mêmes disent qu'ils auraient dû en faire pas mal moins parce qu'au final, c'est un cadeau empoisonné.
Oui, on voit ça souvent, puis je vois ça beaucoup chez mes clients, chez plusieurs clients, en fait, où ils ont grandi dans le luxe, ils se sont tout fait payer, puis des choses de luxe très tôt, très jeune, et trop cher pour leurs moyens, trop cher pour ce qu'ils généraient eux-mêmes, et tu viens dépendant de ce mode de vie-là, mais ton cerveau, il sait que tu ne génères pas la valeur monétaire pour faire ça. Et ça crée un gros écart et ça fait en sorte que on bâtit de l'insécurité chez ces personnes-là. Tu deviens insécure. Tu bâtis pas de la confiance en toi parce que tu le sais que tu n'as pas la capacité toi-même à générer ça. Mmh. Et ça, c'est grave parce que pour le cerveau, là, s'il est insécure de façon générale, il va faire certains choix, dont une sélection particulière de partenaires amoureux et tu vas avoir plus de dépendance en amour. Ça, je le vois beaucoup. Donc, il y a une relation entre la gestion financière, ta représentation de toi et avec qui tu t'associes, avec qui tu choisis d'être en couple. Et souvent, il faut travailler à plusieurs niveaux. Autant la représentation de soi, l'augmentation des responsabilités, puis là, il faut changer un petit peu les espèces de renforcement amoureux. Donc, il y a des grosses conséquences à en faire trop pour les enfants.
Et un autre commentaire sur lequel je veux t'entendre, Guillaume. Louis-Philippe nous écrit « Pour être un jeune, j'ai 26 ans, je trouve que mes amis qui ont eu le moins d'aide ont une meilleure relation avec l'argent. Ils sont plus généreux, plus altruistes. Et ceux qui ont eu trop d'aide le sont beaucoup moins. »
C'est normal, encore une fois, parce que plus tu bâtis de la dépendance, c'est-à-dire que je dépends de mes parents pour avoir un certain niveau de vie, ben plus tu es dépendant, plus tu es anxieux et ton cerveau sait que tu n'as, il a pas lui-même la capacité de générer ces ressources-là. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dépendant? Quand tu es dépendant, tu peux pas être généreux. Il faut que tu aies peur de manquer. Donc, ça crée l'anxiété de ne pas avoir assez. Donc, c'est comme tu veux montrer à pêcher, tu veux pas juste donner des poissons à quelqu'un. Là.
Non, c'est ça.
C'est la même chose.
Exact.
Si tu fais juste donner des poissons, tu bâtis la peur de pas avoir assez de poissons. Si tu montres comment pêcher, tu bâtis pas la peur, tu bâtis la capacité à adresser des défis puis générer tes propres ressources.
Allons parler à Sabrina maintenant. Bonjour.
Allô.
Allô.
Alors, moi, j'ai une exception peut-être au dernier texto, là, ce que vous venez juste d'expliquer. Dans mon cas, ma mère m'a beaucoup gâtée monétairement. Mm-hmm. Pour des raisons, moi, que j'ai analysées, là, que j'ai constatées, là, c'était peut-être pour combler des manquements qu'il y a eu à mon éducation, à sa présence en tant que parent.
Ouais.
Donc, elle a essayé beaucoup de combler ça. Elle m'a aidée aussi parce que on s'entend qu'aujourd'hui, moi, j'ai été travailleur autonome pendant une bonne dizaine d'années. Mm-hmm. Et quand c'est le temps d'acheter quelque chose, les travailleurs autonomes, ils ont plus le poids à la banque que dans le temps, jadis, c'était possible d'acheter mm-hmm. quelque chose ou de faire un emprunt en tant que travailleur autonome. Donc, ma mère, elle m'a toujours endossée pour ce qui est immobilier.
Ouais. Ouais.
Mais de mon côté, à cause que j'ai vu ma mère travailler, était rendue vraiment workaholic, carriériste, était vraiment pas présente, a payé beaucoup de personnes pour s'occuper de moi et mon frère. Et à cause de ça, je me disais, je pense inconsciemment, je veux pas être dans cette situation-là de devoir payer tellement beaucoup de choses, puis travailler autant pour payer toutes ces choses-là pour s'occuper de mes enfants que je me suis ramassée à être très, très proche de mes sous. Okay. Donc, j'ai été capable de cumuler beaucoup, beaucoup d'argent de côté, là, mettre de l'argent de côté, même que, tu sais, des fois, ma mère a dû m'emprunter de l'argent, juste pour dire. Mm-hmm. Mais elle m'a aidée énormément là avec le premier achat de ma voiture, avec, là, ça fait deux immeubles là, que j'achète qu'elle m'a fait, on est comme... endosseur, excusez-moi.
Mais Sabrina, quand vous dites que vous êtes devenue très proche de vos sous, qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, j'ai pu ne pas travailler pendant 3 ans et pas manquer d'argent.
OK.
Donc, tu avais assez accumulé, là. C'est ça.
Exactement. Puis, tu sais, j'ai été travailleur autonome. J'ai jamais gagné des gros salaires. C'est plutôt que, tu sais, je sais où est-ce que je dépense mes trucs. Je fais attention. J'essaie d'économiser sur les trucs que je peux économiser et que ça vaut la peine. Mais quand c'est le temps aussi de dépenser pour quelque chose que je sais que, dans ma tête, là, je me dis, je suis trop pauvre pour dépenser pour du cheap. Fait que des fois, je vais dépenser plus cher pour des trucs pour être sûr que ça va me durer beaucoup plus longtemps à place d'acheter du jetable là, au niveau de la qualité des matériels, là, des matériaux que mm-hmm. j'achète. Là.
Considérez-vous, Sabrina, que vous avez une bonne relation avec l'argent? Ou être un petit peu malsaine?
Est peut-être un peu malsaine. Je vais vous avouer, là, c'est un de mes stress. Tu sais, j'ai beaucoup d'anxiété dans la vie là, pour plein de raisons, mais on dirait que l'argent... je crois que c'est en étant un travailleur autonome, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris la réalité que du jour au lendemain, on peut se ramasser sans avoir de contrat. Tu sais, du jour au lendemain, comme moi, je suis en événementiel avant, c'est que si on regarde j'ai sorti de l'événementiel avant que la COVID arrive, mm-hmm. mais toutes les gens qui étaient en événementiel, vraiment dans l'organisation d'événements, les festivals, tout ça, sont ramassés vraiment du jour au lendemain, sans travail, sans rien. Et moi, en ayant cette souciance, ce côté-là que je me souciais de... Tu sais, j'étais conscient que ça pouvait arrêter n'importe quand. J'ai toujours cumulé de l'argent, mais tu sais, ça a commencé jeune. Là. Je mangeais... Tu sais, j'empruntais des sandwichs à la cafétéria à mes amis pour garder l'argent de la cafétéria. Là. Tu sais, moi, je mangeais à la cafétéria. Ma mère me donnait cet argent-là. Puis je l'accumulais. Puis là, je dealais des sandwichs avec mes amis là pour ramasser de l'argent dès le secondaire.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire par relation malsaine. Je vois ça. Sabrina, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Mais tu vois, c'est un bel exemple de ce que Louis-Philippe écrivait par courriel. Dans le sens, Sabrina a eu beaucoup, beaucoup d'aide, mais ça fait en sorte que sa relation avec l'argent n'est pas nécessairement hyper en santé aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui vont écouter ça mm-hmm. puis vont trouver ça mm-hmm. bien. Mais tu sais, garder l'argent dans la cafétéria pour échanger des sandwichs, là.
Ben, un facteur qui est super important à mentionner de la part des parents, c'est un parent qui a la culpabilité facile pour toutes sortes de raisons. La culpabilité, là, c'est ça va vouloir être compensé par toutes sortes de moyens, en fait, surcompensé. Puis parmi ces compensations-là, ça va être de payer un petit peu trop pour
Mais comme
pour
a dit
enfants.
Sabrina, très, beaucoup d'absence de sa mère.
La culpabilité, ouais. C'est vraiment un gros facteur parce que le cerveau, il déteste cette vision-là de lui, d'être fautif à quelque part. Puis le problème avec la culpabilité, c'est que c'est très flou. Comme pourquoi je me sens coupable, c'est quoi les raisons, comment je fais la part des choses, qu'est-ce que je dois faire en ce moment. Fait qu'on essaie de réparer le passé.
Beaucoup de compensations.
Avec des compensations.
Exact.
Puis comme je l'ai dit plusieurs fois cet été, on ne peut pas sauter l'axe temporel. On ne peut pas réparer quelque chose qui est fait. Il faut mettre les règles claires là et s'engager sur ce droit chemin-là. Mais si on répare continuellement, on donne sans arrêt et ça crée encore plus d'insécurité.
Claire est avec nous maintenant. Bonjour, Claire.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Écoutez, moi, ma situation, elle se résume que mes enfants, en bas de 10 ans, j'ai perdu leur père, j'avais 3 enfants, j'ai élevé 3 enfants veufs.
Okay.
Donc, quand ils ont atteint 18 ans, au salaire minimum, tu peux pas les aider financièrement comme tu veux.
Ouais.
J'en ai un qui est tombé sur l'aide sociale, puis l'aide sociale calculait qu'il fallait que je le paye 700 $ à mon fils par mois, il donnait un chèque de 50$ à mon fils. Mais écoutez, on les aide comme qu'on peut,
ouais.
C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est que c'est moi qui habite chez mon fils qui me permet de pouvoir continuer à vivre, parce que sinon, je serais dans la rue, carrément. Fait que, tu sais, ils ont pas des gros salaires. Mon fils avec qui je vis, on doit partager un auto par rapport à nos emplois parce que son auto a brisé puis on n'a pas les moyens d'en acheter un autre. Mais ça reste qu'il est là pour moi financièrement. J'ai un toit sur la tête, j'ai de la bouffe à faire.
Bien, c'est ça. Ça revient à la notion de collaboration. Tu sais, des fois, on est plus en moyen, des fois, on est moins en moyen. Il y a toutes sortes de situations humaines dans la vie. Puis la question, c'est de quoi on a besoin ensemble pour faire équipe, puis avancer, puis tirer le mieux de ce qu'on peut vivre. Donc là, des fois, il y a des retours de balancier. Des fois, on donne plus. Des fois, ça revient.
Mais ça, c'est un sujet qui est revenu un petit peu par texto aussi. C'est pas tous les parents qui ont les moyens d'aider leurs enfants à la même hauteur que d'autres parents.
Bien, c'est ça.
Puis plus tu as des enfants, plus c'est difficile de les aider de manière équitable aussi. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, si tu as un seul enfant, bien évidemment que tu vas avoir...
C'est mathématique.
Ben c'est ça.
C'est beau la psycho, là, mais je veux dire...
c'est une notion mathématique. Maths, Audrey est avec nous. Bonjour, Audrey.
Bonjour. Moi, en fait, je vois ça presque comme un hommage à ma mère. Là, j'ai 38 ans. Ma mère était monoparentale. Elle n'avait pas la pension de mon père.
Okay.
Elle m'a aidée vraiment du mieux qu'elle le pouvait, puis elle le fait adéquatement. J'ai manqué de rien. Elle a été extrêmement patiente avec moi parce que je savais pas trop où je m'en allais quand j'étais jeune. Et elle m'a inculqué la valeur de l'école.
Okay.
Tant que tu vas à l'école, je vais t'aider. Et on s'entend, là, j'ai fini par trouver ma voie à 25 ans. Je suis sortie de l'école à 28 ans et je suis partie de la maison à 30 ans. Et
okay.
Comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai 38 ans, je gagne très bien ma vie. Et ma mère m'a dit récemment, « Ma chérie, je peux partir dans le terme, je peux maintenant mourir, tu n'as plus besoin de moi.
Mmh. »
Et ceci est au niveau financier, on s'entend. Là. Ma mère, elle meurt demain, j'ai de la peine.
Ben oui.
Mais j'ai trouvé ça magnifique à entendre. Elle est maintenant sereine. Et je lui demande plus rien, je suis correcte, tout va bien, elle est maintenant autonome, je la vois aller, puis elle dépense son argent pour elle, je compte plus dans sa vie pour elle là, maintenant. Là.
Ouais.
Puis j'espère je vais faire ça avec mes enfants plus tard.
Est-ce que vous avez des enfants, Audrey?
Oui, j'en ai une, elle a 3 ans et demi.
Okay.
Elle est un petit peu trop gâtée. Il va falloir que je fasse attention.
Mais vous voyez ça comment quand votre fille va être adolescente ou jeune adulte, disons à 18 ans, puis là, elle veut aller étudier un cégep ou une université qui est plus loin de la maison. Est-ce que vous allez l'aider avec l'appartement?
Oui,
puis tout
oui,
ça?
Oui, je suis prête. J'ai pris toutes les données nécessaires parce que moi, je veux dire, ma mère, si j'avais voulu aller à l'université, exemple, j'aurais voulu aller médecin, je pense pas qu'elle aurait eu les moyens de m'aider.
Okay.
Puis je pense pas que moi, au côté mature, j'aurais eu le moyen de m'organiser toute seule. Je voudrais que ma fille puisse faire ce qu'elle veut plus tard. Si elle fait un DEP, j'ai aucun problème avec ça, mais advenant qu'elle voudrait aller à l'université plus loin, qu'elle voudrait faire des études qui coûtent un peu plus cher, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis déjà prête.
Et mais Audrey,
elle pourra aller où elle veut.
Là, vous avez un enfant, c'est ça?
Oui.
Bon, si vous ramassez avec 3 enfants, disons, est-ce que vous pensez que votre mentalité va changer un petit peu par rapport à votre aide? Parce qu'à un moment donné, effectivement, si c'est mathématique, là, on ne peut pas aider à la même hauteur tout le monde.
Vous avez tout à fait raison. Dans mon cas, il y en aura juste un.
OK. C'est prévu
mais j'y ai déjà pensé. Il y a eu un moment où, oui, j'en aurais voulu peut-être 2 et 3. Puis juste au moment d'y penser, je me suis dit, mais comment je vais faire pour payer advenant juste le secondaire au privé?
Ouais.
Dans ma tête, je me suis dit, 2 en même temps, c'est beaucoup de sous. Là. Je veux dire, je gagne bien ma vie, mais je suis pas riche. Là,
ouais.
Je trouvais ça... J'étais déjà en train, dans ma tête, de me dire, comment je vais faire? Parce que j'aurais voulu être équitable pour les deux. Fait que, oui, ça... c'est vrai, là, vous avez raison. T'sais, j'en ai juste une, elle est chanceuse, elle le sait pas. En avoir eu plus, il aurait peut-être fallu que je descende leurs attentes ou il aurait fallu que je les fasse collaborer davantage, là.
Audrey, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Et ça, d'ailleurs, c'est que c'est un débat que plusieurs parents vont avoir avant d'avoir des enfants. On en veut combien? Est-ce que c'est quoi nos objectifs? Est-ce qu'on veut les aider au maximum de ce qu'on peut, les envoyer au privé, les envoyer à l'université? Ben si, oui, et puis on veut tout faire ça, et on n'a pas les moyens d'en avoir trois. Il va falloir prendre une décision puis d'en avoir moins. Ou est-ce que notre objectif, c'est d'avoir une très, très grande famille et d'avoir un aspect de collaboration, d'enseigner des valeurs qui sont très près de notre cœur, puis on vivra selon nos moyens. Oui. Si c'est le cas, ben, il y a d'autres
décisions. C'est des philosophies différentes. Exact. On ne peut pas dire qu'est-ce qui est mieux ou moins bon. Je pense qu'on est sûr que ce qui est bon, c'est un humain qui est autonome, qui est responsable, qui vit la vie qu'il veut mener. Mais après ça, il y a plein de façons de le faire, ça. Puis ça dépend aussi des standards de chaque parent. Pour des parents, là, je connais des gens qui disent « Non, moi, il faut que je lègue au moins 1 million par enfant. Il n'y aura rien en bas de ça. » Si c'est ça ton objectif, ben ça veut dire que ça te prend une vie qui va générer ça, qui va permettre de générer ce genre d'accompagnement-là. Mais ça dépend, c'est très personnel les standards qu'on a comme parents.
Et à l'inverse, j'ai l'impression que ce qu'on entend aussi de plus en plus depuis quelques années, c'est moi, mon objectif, c'est de rien léguer à mes enfants. Dans le sens que tout ce que j'ai accumulé, je veux le dépenser pendant ma retraite, penser à moi puis dépenser pour moi.
C'est une philosophie. C'est aussi, une philosophie culturelle. C'est vraiment pas toutes les philosophies qui fonctionnent dans ce sens-là. Puis, tu sais, Pierre-Yves McSween, justement, lui, il fait la promotion de dire cumuler des choses, commencer à économiser tôt. Donc, il y a beaucoup plus une culture de l'économie là, sur laquelle il focus, lui.
On doit s'arrêter pour une pause. Comptez-vous trop sur papa-maman pour avancer dans la vie? Ou les parents, est-ce que vous permettez trop à vos enfants de compter sur vous? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc.
Plus large des choses. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
C'est vraiment intéressant de vous lire par texto aussi. On aime mieux vous parler au téléphone, là, c'est sûr, mais on lit quand même tous vos textos. Puis Guillaume, il y a un point qui est arrivé, on a fait 9-5, puis je veux t'entendre là-dessus. Il y a quelqu'un qui amène l'idée que aider énormément financièrement ses enfants, ça peut être une manière de garder une emprise et un contrôle sur leur vie. Par exemple, je vais t'aider à acheter ta première maison, oui, mais si je te prête l'argent, je vais décider où tu vas habiter, puis je décide que tu vas habiter proche de chez moi.
Ouais.
Tu comprends? Quand on a besoin financièrement de nos parents, ben eux, il y a peut-être certains parents qui vont trouver leur compte en disant « Oh, je vais garder une manière de contrôler puis de garder une
maîtrise. » Je dirais oui, beaucoup, mais c'est pas conscient. Il n'y a pas de parents qui se disent ça consciemment. Je vais essayer secrètement de contrôler mes... C'est plus implicite que ça. C'est comme des réactions où on veut juste garder l'enfant proche. On veut juste sentir qu'il va faire exactement les choses comme nous, on voudrait qu'il les fasse. Tu sais, c'est subtil, ces formes d'aliénation-là. Donc, c'est pas nécessairement conscient ou consciemment malveillant ou intentionnellement négatif.
Je comprends.
Mais le pattern, c'est du contrôle. Et c'est du contrôle pas juste financier, c'est en fait du contrôle émotionnel qui va être très intrinsèquement relié, puis je le vois beaucoup, on le voit beaucoup en psychologie clinique, puis je le vois beaucoup avec mes clients, les personnes qui se sont faites payer beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, les parents sont très, très contrôlants, et là, quand elles se retrouvent en couple, ben là, il faut qu'ils soient indépendants, là, les enfants, mais là, le parent, il veut pas ça, là, fait que là, il commence à se mêler de la vie de couple, sur les choix de couple, sur les enfants, sur l'éducation, donc ce contrôle-là, ou l'éducation des enfants, tu peux plus payer pour ça, juste financer ça, là, donc là, comme l'argent a une limite, ben là, il s'insère dans la vie des enfants, c'est pas toujours comme ça, mais c'est sûr qu'il y a des liens.
Écoute, ça me fait... Il y a tellement d'histoires d'horreur.
Il y a des images dans la tête,
mais c'est parce qu'il y a tellement d'histoires puis de témoignages qu'on a entendus sur des histoires de beaux-parents qui, justement, aident financièrement, mais veulent décider à quelle école le petit va aller, par exemple. Ils veulent décider comment il va s'habiller cette journée-là pour telle partie de famille. C'est des micro-éléments de contrôle,
qui s'accumulent dans le temps et qui créent des tendances. Et plus l'enfant est confortable à se faire payer les choses puis à pas être indépendant, à un moment donné, on frappe un mur.
Exact.
Parce que t'as besoin de ton indépendance. Donc là, tu as ce qu'on appelle des adolescents, c'est-à-dire des adultes, mais avec une psychologie d'adolescent dépendant.
Myriam est avec nous. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
On vous écoute.
Ben moi, écoute, je suis 100% québécoise. Là, j'ai comme une philosophie. Je pense que à la base, c'est ma famille qui m'a inculqué là. Puis je viens pas d'un milieu riche. Là, au contraire, je viens d'une famille quand même assez pauvre. Tu sais, des parents qui ont pas de secondaire 5 seulement. Là, fait que. Mais je pense que le rôle du parent, c'est d'amener son enfant, d'élever son enfant, puis. C'est normal que les parents payent pour les enfants, là, je veux dire. Moi, je prends le cas de... J'ai un enfant, j'ai un fils qui a 19 ans, j'ai payé son permis de conduire, j'ai payé sa première voiture, je paye ses voyages, je paye ses activités. Tu sais, mon fils va à l'école. Je veux qu'il se concentre sur complètement autre chose. Moi, je l'ai vécu, travailler à 16 ans, payer mes études, payer mon appartement, payer mes choses à moi. Puis c'est difficile de s'en sortir. C'est très, très difficile. Fait que je veux pas que mon enfant vive cette situation-là. C'est bien beau de dire faut les laisser faire leur erreur, faut les laisser découvrir qui ils sont dans la vie, mais apprendre à la dure, c'est pas nécessairement bien apprendre.
Mais est-ce qu'il travaille, votre fils? Est-ce qu'il travaille,
votre fils? Travaille.
OK.
Il travaille 3 jours semaine durant l'été, pendant l'année scolaire. Je veux pas qu'il travaille, je veux qu'il se concentre vraiment sur ses études.
Puis il fait quoi avec son argent?
Ben, il va s'acheter ces choses que lui veut. Exemple, des jeux vidéo, des consoles électroniques parce qu'il étudie en électronique. Il y a des choses qui sont pas essentielles que c'est lui qui se paye là. Si ça n'a pas rapport avec son école, puis que je trouve que tu sais que c'est quelque chose qui est pas obligatoire, c'est lui qui va se le payer. Mais tu sais, mon fils est très responsable dans ce sens que il gaspille pas ses sous, il les garde ses sous, il veut économiser, il y a des projets plus tard, tu sais, il y a des buts dans la vie qui veut arriver. Mais je me dis, si le parent, tu sais, quand on dit on n'a pas les moyens de payer égal tout le monde, avoir un enfant, c'est de prendre des décisions, c'est de s'asseoir, de dire un enfant, ça coûte combien jusqu'à temps qu'il soit capable de se débrouiller, non pas comme notre mentalité le veut qu'à 18 ans, c'est des adultes, ben débrouillez-vous. Pardon, à 18 ans, t'es pas adulte. Des fois, à 40 ans, t'es pas adulte.
Mais Myriam, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un budget maximal par rapport à ce que vous lui payez? Vous avez dit que vous payez la voiture, vous payez les voyages. S'il veut faire 2 voyages dans l'année, est-ce que vous allez payer les 2 voyages ou vous avez quand même une limite?
Ben moi, s'il veut faire 2 voyages, on les fait tout le temps ensemble de toute façon. On voyage ensemble, on a du plaisir à voyager ensemble. S'il me dit, j'aimerais ça qu'on parte en voyage cet hiver, ben pas de problème, on va partir en voyage cet hiver.
Mais s'il veut partir avec ses amis, mettons?
Ben c'est jamais arrivé, c'est ça, c'est jamais arrivé. Tu sais, on n'a pas une relation exclusive là, c'est pas ça que je veux dire. Parce que avec ses amis, il va plus, exemple, aller à un spectacle, il va plus aller, tu sais, il va faire des activités de jeunes de son âge. Mais c'est sûr que moi, depuis qu'il a l'âge de 1 an, qu'on part en voyage, que j'y fais découvrir le monde, que je vais y faire découvrir des cultures, pour justement aussi, ça l'amène ça à un enfant. Mais de savoir que dans des pays, ils ne mangent pas leur faim, dans d'autres, ils n'ont pas de vêtements.
Êtes-vous en
couple? Ben lui, il voit.
Est-ce que vous êtes en couple, madame?
Je suis séparée. Je suis séparée. Okay. J'ai élevé mon fils seul, moi.
Okay, je comprends.
OK.
Et Myriam, dites-moi, si vous arrivez demain matin et disait « je veux faire un voyage avec mes amis là, dans lequel vous n'êtes pas invité », est-ce que vous payeriez pour lui quand même?
Tout à fait.
Oui? OK.
Tout à fait. Écoute, il a un projet de vouloir aller en Alaska l'hiver prochain, puis j'y ai déjà dit que je le supporterais là, que s'il voudrait y aller. T'sais, il me dirait, je vais m'en aller à Cancun pendant une semaine, aller boire de l'alcool, puis virer une débauche, je dirais peut-être pas.
OK, fait que c'est pas oui à tout prix, là. Il y a quand même certains critères.
Ben, il y a pas de critères, mais je pense que j'ai élevé mon enfant d'une façon qu'il est quand même responsable, puis qu'il comprend une certaine base de choses. À 15 ans, il m'aurait dit, moi, je veux partir en voyage avec mes amis, ça aurait été non,
ouais,
là.
Ouais, non,
à 15 ans, c'est pas... mais je veux dire, mais moi, le rôle d'un parent, puis tu sais, je me suis jamais sacrifiée de dire, ben moi, je mangerai pas pour que lui aille tout. C'est que j'ai prévu que j'avais un enfant, j'ai prévu de mettre un certain nombre d'argent de côté pour dire, bon, ben éventuellement, mon fils va avoir besoin de ça. Est-ce que je vais être en mesure de l'aider? Puis j'ai pas eu cette aide-là de mes parents, j'ai pas eu cette aide-là de ma famille, puis moi, c'était très important que mon fils se ramasse pas à 18 ans, dire, ben là, t'as 18 ans, tu t'en vas en appartement, trouve-toi un emploi, va travailler 5 jours/semaine,
non,
mais essaie
comprends.
De faire tes études en même temps.
Myriam, merci beaucoup d'avoir appelé. On va devoir se quitter là-dessus, malheureusement. La pause s'en vient. C'est intéressant.
Moi, j'invite les gens à la lumière de ce dernier appel de vraiment réfléchir à la structure de ce qu'on supporte, pour quelles raisons, et qu'on réfléchisse aux lignes appropriées. Et pour quelles raisons on veut supporter? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est naturellement pour l'enfant? C'est pour quelles raisons?
Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour votre transparence. On va continuer à vous lire durant la pause. Le bulletin de nouvelles s'en vient. On se retrouve dans quelques minutes.